Nous ouvrirons la parole de Dieu dans le chapitre des Actes, les versets 1 au chapitre 11, les versets 1 à 18. Chapitre des Actes, 11, les versets 1 à 18.
Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi reçu la parole de Dieu. Quand Pierre revint à Jérusalem, les croyants d'origine juive le critiquèrent en disant « Tu es entré chez des gens non circoncis et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre leur raconta en détail tout ce qui s'était passé. Il leur dit « J'étais dans la ville de Jaffa et je priais lorsque j'eus une vision. Je vis quelque chose qui descendait vers moi, une sorte de grande nappe tenue aux quatre coins qui s'abaissait du ciel et qui vint tout près de moi. Je regardai attentivement à l'intérieur et vis des animaux quadrupèdes, des bêtes sauvages, des reptiles et des oiseaux. J'entendis alors une voix qui me disait « Debout, Pierre, tue et mange ». Mais je répondis « Oh non, Seigneur, car jamais rien d'interdit ou d'impur n'est entré dans ma bouche ». La voix se fit de nouveau entendre du ciel. « Ne considère pas comme impur ce que Dieu a déclaré pur ». Cela se produisit trois fois, puis tout fut remonté dans le ciel. Or, au même moment, trois hommes arrivèrent à la maison où nous étions. Ils m'avaient été envoyés de Césarée. L'Esprit Saint me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six frères que j'ai amenés ici m'ont accompagné à Césarée et nous sommes tous entrés dans la maison de Corneille.
Celui-ci nous raconta comment il avait vu un ange qui se tenait dans sa maison et qui lui disait « Envoie des hommes à Jaffa pour en faire venir Simon, surnommé Pierre. Il te dira des paroles que t'apporteront le salut à toi ainsi qu'à toute ta famille. » Je commençais à parler lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux, tout comme il était descendu sur nous au début. Je me souvins alors de ce que le Seigneur avait dit. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Dieu leur a accordé ainsi le même don que celui qu'il nous a fait quand nous avons cru au Seigneur Jésus. Qui étais-je donc pour m'opposer à Dieu? Après avoir entendu ces mots, tous se calmèrent et louèrent Dieu en disant « C'est donc vrai, Dieu a donné aussi à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer de comportement et de recevoir la vraie vie. » Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et bien maintenant, je vais demander à notre pasteur, à Zoran, de venir me rejoindre. Et bien, Zoran est pasteur de l'église francophone à Genève, en Suisse. Et puis aussi, nous avons eu l'occasion de faire un magnifique voyage ensemble. Nous avons partagé en Israël des moments extraordinaires. Et puis pour ceux qui connaissent Frère Dufault, il est le gendre d'André Dufault. Voilà, merci. Je vais maintenant... J'ai peut-être oublié des choses importantes, mais
non.
Voilà, je vais lui laisser la place maintenant.
C'est l'essentiel, merci. C'est l'essentiel. Merci beaucoup, Michel. J'ai vraiment un très grand plaisir d'être parmi vous ce matin, surtout qu'il y a beaucoup de visages que je connais. Ce sont des amis. Nous nous sommes connus il y a une quarantaine d'années, puis occasionnellement on se voit. Je me souviens, comme si c'était aujourd'hui la première fois que j'ai pénétré cette chapelle, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'était en hiver 71 et on a célébré ici le mariage de Bruno Vertalier par son papa avec Christiane. C'était la première fois où je voyais cette église, je crois qu'elle venait d'être construite, mais en tout cas c'était dire que j'ai gardé. Je voudrais juste en quelques mots dire qu'à Genève nous partageons notre tâche avec, nous sommes deux pasteurs, il y a Gilbert Creuset et moi-même. Donc, nous nous sommes partagés un peu les tâches. Et je voudrais juste en deux mots vous donner quelques projets parce que ce que je vais vous dire tout à l'heure est lié beaucoup au fait de ce que nous allons vivre cette année 2014. La ville de Genève a été choisie pour l'année 2014 parmi les grandes villes, les big cities, pour l'évangélisation au niveau de la conférence générale. Et donc la division, notre division a choisi Genève pour cette activité. Et je ne pense pas que vous connaissiez bien un tout petit peu comment est organisée la vie de l'Église adventiste à Genève. Il y a 4 communautés qui sont assez importantes et il y a donc un groupe. Parmi les communautés qui sont organisées, il y a donc l'Église anglophone qui compte environ 120-130 membres, parfois un tout petit peu plus, parfois un peu moins. Tout dépend du personnel dans les organisations internationales qui passent par Genève. Ensuite, il y a la communauté hispanophone, donc les hispaniques, ils sont environ 130. Il y a ensuite la communauté lusophone, donc les Brésiliens et les Portugais, ils sont environ 170-180. Il y a l'Église francophone, donc nous sommes environ 290, et il y a un groupe qui se réunit à Meyrin, qui compte environ une quinzaine de personnes. Donc si vous faites le compte de tout cela, il y a dans la ville de Genève, il y a à peu près 700 adventistes dans les différentes communautés. Et donc nous avons deux grands projets. Un premier projet qui consiste à préparer la création d'une nouvelle église. Pour cela, il y a un groupe d'étudiants, d'environ 12 étudiants qui sont à Collonges, qui sont venus aussi en aide. Et au mois d'octobre, une grande campagne d'évangélisation avec Brad Shaw, qui aura lieu sur environ une quinzaine de jours. Voilà un tout petit peu pour les nouvelles de la communauté dans laquelle j'ai le plaisir d'exercer. Mais si ce matin, imaginons que les radios libres existent et existaient au temps des apôtres, voilà ce qu'on aurait pu entendre un matin dans le bulletin d'information d'une radio libre. L'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie. Elle s'édifie, elle marche dans la crainte du Seigneur. Elle croit par la puissance du Saint-Esprit. Et le communiqué aurait continué. Pierre visite les saints. Il descend aussi vers Lydde. Voilà. Ça aurait pu être un communiqué s'il y avait les radios à l'époque. Je pense, je ne veux pas vous faire l'affront de rappeler la vie de Pierre, mais je voudrais juste ce matin qu'on essaye de comprendre ce qui se passe dans le texte qui nous a été lu tout à l'heure. Je voudrais demander, voilà, une première diapositive. Cela vous montre un tout petit peu le territoire dont nous avons parlé. Donc vous voyez Jérusalem dans le premier tiers de la carte, puis vous voyez Lydde et Joppé. Donc Pierre va choisir, pour se rendre, pour visiter les églises, il va choisir la route de la mer. Donc il sort par une route qui va vers la mer. Et là, à Lydde, il va faire un premier miracle. Un paralytique est né et guéri. Puis, 30 kilomètres plus loin, 30 kilomètres plus loin, il va faire un deuxième miracle. Il va ressusciter Tabitha ou Dorcas. Nous lisons ça un tout petit peu comme des faits divers et ça ne nous touche plus vraiment. Mais imaginons ce matin que Bernard Sauvagnat, tout à coup, parte pour faire, je ne sais pas, visiter l'église de Paris-Est. Et puis qu'arrivé à Versailles, il guérisse un paralytique, et puis arrivé à Paris-Est, qu'il ressuscite une personne qui vient de décéder. Je ne sais pas comment vous vivriez cela. C'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, c'est ce qui se passe à l'époque où Pierre va commencer à visiter. Et Pierre va visiter les églises parce que l'église chrétienne est en paix. Et c'est intéressant de voir quelle est la cause de cette paix. Si vous lisez dans le livre des Actes au chapitre 8, le verset 3, on nous dit que Paul ou Saul ravageait l'église. Et le chapitre 9 nous raconte la conversion de Saul. Donc tout à coup, l'église est en paix. Je n'ai pas le temps de développer ce matin l'influence que Saul et le réseau qu'il avait pouvaient avoir sur la première église. Mais ce qui m'intéresse, c'est de suivre Pierre pendant quelques instants. Pierre va donc rester à Joppé, il va s'établir pendant quelques temps chez Simon le courroyeur. Avec Michel et Daniel, nous avons eu le plaisir encore cette année de voir soi-disant la maison où Pierre aurait eu cette vision. Il est très peu probable que ça soit là, mais ça donne une idée un tout petit peu de l'endroit où on pouvait voir ce que Pierre avait éventuellement pu voir, cette belle terrasse qui donne sur la Méditerranée, ce beau panorama. Pierre est en train de méditer lorsque tout à coup il a eu la vision qui vous a été lue tout à l'heure, et puis ces hommes qui viennent et qui demandent à Pierre de partir avec eux. Le chemin de Joppé à Césarée est à peu près long de 60-70 kilomètres. En voiture, aujourd'hui, ça représente à peine une heure de trajet. Par contre, à l'époque, je pense que ça devait représenter 2 jours. Et j'ai essayé de me mettre dans la situation de Pierre et de me dire, voilà, je suis appelé pour la première fois chez un païen. Et pas n'importe quel païen, c'est l'occupant. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais gérer la situation? Vous avez d'ailleurs vu que Pierre est précautionneux. Il prend 6 hommes avec lui parce qu'il faut des témoins pour savoir un peu comment les choses se passent. Et quand il arrive chez Corneille, Corneille lui dit une chose extraordinaire. Il lui dit, voilà, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, il y a l'ange de l'Éternel qui s'est présenté à moi et qui m'a dit, envoie chercher à Joppé, un nommé Pierre, il te dira ce que tu dois faire. Là, c'est pareil, nous lisons cela parce qu'on l'a tellement lu comme quelque chose de normal. Mais est-ce qu'on imagine un tout petit peu l'ange qui vient parler à Corneille et qui ne va pas jusqu'au bout de l'annonce, mais il lui dit, écoute, Jésus a un homme de confiance, il s'appelle Pierre, il est à Joppé, envoie le chercher. Et l'ange s'en va. Est-ce que l'ange n'aurait pas pu terminer là, le travail n'aurait pas pu enseigner à Corneille des choses? Bien sûr qu'il pouvait. Mais vous voyez, lorsque le Seigneur a des hommes de confiance à qui il a donné sa confiance, il ne revient pas en arrière. Et là, Pierre, tout à coup, a dû se souvenir de cette matinée mémorable où il a pêché toute la nuit sans rien prendre. Et puis quand il arrive au bord de du lac de Genezaret, un homme, un inconnu, leur dit « Mais jetez les filets ». Vous connaissez la pêche miraculeuse, ça a tellement marqué Pierre qu'on nous dit qu'il y a eu 153 poissons, c'est-à-dire qu'on va dans le détail de cette rencontre. Mais cette rencontre a fait aussi un autre chemin à Pierre. C'est là qu'il reçoit la confiance de Jésus. Pierre venait de renier Jésus. Jésus le rencontre de nouveau, il lui pose la question, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et Pierre répond, « Oui, Seigneur, je t'aime. » Et puis, vous connaissez le texte, cela va se passer 3 fois. Et finalement, Pierre va dire, « Seigneur, toi qui sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Je te fais confiance, paix mes brebis. » Vous voyez, quand Dieu a choisi à donner sa confiance à un homme, il ne la retire pas. C'est quelque chose que je voudrais que vous ressentiez ce matin. Et Dieu ne change pas comme nous changeons. Quand il nous confie quelque chose, il va jusqu'au bout de la confiance qu'il nous fait. Seulement voilà, et Pierre vit quelque chose de très fort. L'Église entend, tu peux me passer, voilà, là-haut vous voyez Césarée où Pierre est avec quelques hommes. Merci, maintenant c'est la dernière diapositive avant la fin. Et là, quand il revient, Pierre est enthousiasmé. Et comment pouvait-il en être autrement? Guérir un paralytique, ressusciter une personne, convertir ou apporter la bonne nouvelle à une famille qui attendait cela. Pierre voit vraiment Jésus à l'œuvre. Mais l'Église, qui ne vit pas le même enthousiasme, qui ne vit pas les mêmes choses, qui ne vit pas les mêmes événements, demande à Pierre de venir s'expliquer. Et l'Église ne voit qu'une chose. Elle voit que Pierre a transgressé une tradition. La tradition de ne pas aller chez les païens. Et vous avez ressenti dans le texte que la discussion devait être forte. Parce que le verset 18 nous dit, après avoir entendu Pierre et les hommes, ils se calmèrent. Ça prouve que ça devait discuter fortement. Et qu'est-ce que Pierre essaie d'expliquer? Pierre essaie d'expliquer que lorsque Dieu abat les murs de l'Église, le cloisonnement dans lequel l'Église, elle s'amure parfois, parce que on est bien quand il y a des limites, quand on est entre nous. Mais s'il y a des limites et si nous sommes qu'entre nous, la mission que Jésus nous a confiée, elle est morte. Elle est morte née. Pour que ça puisse marcher, il faut que ces murs tombent. Et l'Église, elle a peur de faire tomber les murs, parce qu'elle a peur que le péché rentre dans l'Église. Et Pierre dit non. Quand les murs tombent, c'est les pécheurs qui rentrent dans l'Église. Et c'est la grâce qui rejaillit sur le monde. Je vous en parle parce que vous voyez, quand on prépare des campagnes d'évangélisation et qu'on discute dans le conseil d'Église, il y a les mêmes débats. Qu'est-ce qu'on doit faire? Jusqu'où on doit s'ouvrir pour que nos contemporains comprennent le message qu'on a à leur apporter, qu'ils l'aiment, qu'ils l'acceptent? Et parfois, ça fait des débats qui sont vifs. Parce que les uns ont une certaine position et ils ne voudraient pas en démordre. Et puis d'autres ont des positions plus avancées ou différentes. Et le débat est normal. Le débat dans l'Église est quelque chose de normal. Vous avez vu que le Seigneur a permis que ce débat ait lieu. Ce qui n'est pas normal, c'est que à la fin, tous se calment. Et que on arrive à un consensus. C'est ça qui n'est pas normal quand on n'y arrive pas. La première Église, elle a débattu, elle a entendu les points de vue des uns et des autres, l'Esprit de Dieu a travaillé, et on a réussi à trouver un consensus. Parce que peut-être que l'Église a compris aussi, comme Pierre, que Jésus lui fait confiance. Et quand Jésus fait confiance, il va jusqu'au bout. Et l'histoire s'est répétée. Et si vous lisez un tout petit peu l'histoire de l'Église, au début du XVIe siècle, un certain Martin Luther, jeune homme, brillant étudiant, arrive dans un couvent. Il est accueilli par un homme de confiance de Dieu. Il s'appelle Johann von Staupitz. Cet homme-là accueille Luther. Il voit que Luther a une grande connaissance, mais il voit aussi que Luther souffre, que Luther n'est pas en paix. Alors, cet homme, petit à petit, va va le mener sur le chemin, va lui indiquer le chemin que le Seigneur a donné pour que Luther puisse être apaisé. Et puis, quelque temps après, il va lui céder même sa chair dans cette université. Et puis, Luther va devenir l'homme de confiance de Dieu. Et à Luther, Dieu va adjoindre un autre homme de confiance, Melanchthon. Ils ont bouleversé le monde. Le christianisme n'est plus le même avant cette période et après cette période. Lorsque des hommes ont pris conscience que Dieu leur fait confiance et qu'ils font confiance à Dieu, il n'y a rien qui résiste. Mais vous allez me dire, tout ça est lointain. Alors, pendant 5-6 minutes, je voudrais vous lire un texte d'une femme de confiance de Dieu. Cette femme a été emprisonnée par la Gestapo à La Haye. Elle est dans une prison à Scheveningen, qui est un des quartiers, avant d'être transférée à Ravensbrück. Elle s'appelle Corrie ten Boom. Elle raconte « L'interrogatoire porta sur mes activités parmi les jeunes. Je ne parvenais pas à déchiffrer quel était le but de mon interrogateur sur le sujet. Mais il me mit tellement à l'aise que je ne sentais même plus le besoin de contrôler soigneusement chaque phrase. « Que faites-vous de votre temps libre ? » demanda-t-il. Je lui parlais de mes efforts à Harlem pour apporter l'évangile aux faibles d'esprit. N'est-ce pas là une perte de temps ? Il est certainement beaucoup plus important de convertir une personne normale qu'une personne dont les qualités intellectuelles sont déficientes. Corrie dit, authentique philosophie nationale socialiste, pensais-je. Mais j'ai répondu, le Seigneur Jésus n'a pas le même gabarit que nous. La Bible nous apprend qu'il est celui qui possède un grand amour et une grande compassion pour ceux qui sont perdus et méprisés, pour tous ceux qui sont petits, pauvres et débiles. Il se peut que devant lui, un faible d'esprit ait plus de valeur que vous et moi. Toute âme a du prix à ses yeux. Son amour est pour nous tous. Mon interlocuteur était silencieux. Je me rendais compte qu'il réfléchissait. Il dit brusquement, « Cela suffit pour aujourd'hui. » Je m'arrête là juste un instant. Et j'étais touché quand j'ai lu ces paroles, parce que elles ne sont pas dites comme ça devant un ami. Elles sont dites devant quelqu'un qui a pouvoir de vie ou de mort sur vous et qui ne vous aime pas forcément. Et avoir le courage de dire, vous savez, le Seigneur n'a pas le même gabarit que nous. Il faut être une femme de confiance de Dieu. Et Corrie va raconter après son retour dans la cellule, puis elle reprend l'interrogatoire du lendemain. Le lendemain, je fus appelé très tôt. Le juge en personne était venu me chercher. Cette fois, il ne me conduisit pas dans son bureau. L'interrogatoire eut lieu dehors, contre le mur du jardin. Vous avez beaucoup trop peu de soleil. Nous pouvons fort bien poursuivre nos entretiens en plein air. Tant de sollicitude me toucha. L'emprisonnement ne me semblait plus pénible depuis qu'il existait un être qui ne me rudoyait pas, mais qui au contraire me traitait avec égard. Il s'appuya contre le mur et dit « Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne pouvais m'empêcher de penser à tout ce que vous m'avez dit de Jésus-Christ. Parlez-moi encore de lui. » À mes côtés, l'officier superbe, le juge souverain, avait fait place à un simple homme qui avait été mis en contact avec Dieu et qui venait de reconnaître sa propre misère. Jésus-Christ est la lumière qui est venue dans le monde afin que ceux qui croient en lui ne demeurent pas dans les ténèbres. Y a-t-il des ténèbres dans votre vie? Oui, et d'épaisses ténèbres. Lorsque je m'endors, je n'ose pas penser au réveil. Et lorsque je m'éveille, je redoute la journée qui va suivre. Ma tâche me fait horreur. À Brême, j'ai une femme et des enfants, mais j'ignore s'ils sont encore en vie. Qui sait? Le bombardement d'hier soir les a peut-être anéantis. Oui, il y a de grandes ténèbres dans ma vie. Jésus a porté vos péchés à la croix. Livrez-vous entièrement à lui et la lumière poindra dans votre vie. Il n'est de ténèbres si denses que Jésus ne puisse dissiper. Je l'entretenais longuement des vérités spirituelles. Plus tard, nous allâmes dans son bureau et lorsqu'il eut établi son rapport, je le signai. Toutefois, avant de le taper, il m'en fit la lecture à haute voix. Le dernier paragraphe du procès-verbal vaut d'être rapporté. Elle a l'intention de poursuivre son œuvre comme par le passé, dans un désir d'aider tous ceux qui feront appel à elle, sans distinction de race ou de croyance, et ce pour obéir à l'ordre de Christ d'aimer Dieu et son prochain. Il me reconduisit et dit tout à coup, « Je ne parviens pas à comprendre comment vous pouvez croire en l'existence d'un Dieu. » Car s'il y en avait un, comment pourrait-il permettre qu'une femme telle que vous soit emprisonnée? Écoutez la réponse de Corrie. Dieu ne se trompe jamais. Il est bien des choses que nous ne comprendrons que plus tard. Mais cela ne saurait être pour moi un problème. Il entre dans la volonté de Dieu que je sois pour un temps seul, ici, avec lui. Vous voyez, lorsque on est une femme de confiance, lorsqu'on est consciente de celui qui nous fait confiance, même la prison de Scheveningen est un lieu choisi. En tout cas, elle comprend comme ça, par celui qui lui fait confiance. Le même jour, elle écrit à ses sœurs, dont l'aînée va décéder très peu de temps après, et elle dit ceci, « Je me sens assez bien, ne vous inquiétez pas pour moi. L'interrogatoire ne s'est pas mal passé du tout. Le Seigneur m'avait donné une grande assurance et le courage de témoigner pour lui. Je n'ai pas peur, le Sauveur ne me laissera pas. » Voilà, je voulais vous rapporter cela parce que, vous voyez, lorsqu'on a intimement la confiance que nous sommes la femme et l'homme à qui Jésus fait confiance, rien ne peut nous ébranler. Parfois, les choses peuvent paraître obscures. De Jopé à Jaffa, pendant 2 jours, pour Pierre, les choses n'étaient certainement pas claires. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas où le Seigneur le menait exactement. Ce dont il était conscient, c'est que Jésus lui faisait confiance. Et il y allait. Luther ne savait pas, au départ de son ministère, jusqu'où ce ministère va le mener. Mais il savait une chose. Il savait que Dieu lui faisait confiance. Corrie ten Boom ne savait pas si elle va revenir vivante des camps de concentration. Mais elle savait que Dieu lui faisait confiance et que ces moments, elle doit les passer avec lui. Vous voyez, j'exerce mon ministère actuellement dans un pays où le système bancaire est l'activité, une des activités principales du pays. Et à ce titre-là, je pense que la Suisse doit être le pays où il y a le plus de fondés de pouvoir au kilomètre carré. Est-ce que tu veux bien passer la diapositive suivante? Seulement, voyez-vous, ce texte nous dit, Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quand je vois ce que les fondés de pouvoir des banques sont capables de faire et jusqu'où ils entraînent le monde, et nous ne sommes probablement qu'au début de nos misères, je me dis heureusement que Dieu n'agit pas de la même façon. Il n'a qu'un seul fondé de pouvoir, c'est Jésus-Christ. La place est prise, ce n'est pas la peine de se battre pour avoir la place. Par contre, tu peux me passer la diapositive suivante. Jésus cherche toujours des femmes et des hommes qui ont confiance, qui acceptent cette confiance. Est-ce que vous l'acceptez? Acceptez-vous d'être aujourd'hui la femme et l'homme de confiance de Dieu? Si tu peux dire aujourd'hui, comme Pierre autrefois, « Seigneur, tu sais toute chose, tu sais que je t'aime », voici ce que le Seigneur vous répond. Je te fais confiance. Et ce « je te fais confiance », ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est Jésus. Vous allez maintenant repartir chez vous. Vous allez finir l'année en famille. Vous allez commencer une nouvelle année. À midi, vous serez entre amis et peut-être que les jours qui vont suivre vont vous permettre d'être de nouveau entre amis. Vous allez parler de beaucoup de choses et c'est normal. Quand on travaille toute l'année et puis qu'on n'a que quelques jours de congé, c'est normal qu'on parle des choses qu'on a vécues, des choses qui nous ont marquées. Je formule un vœu, j'aimerais que vous trouviez un petit moment de parler les uns avec les autres sur la façon dont Jésus vous fait confiance et dont vous ressentez cette confiance. Et de vivre avec le Seigneur la nouvelle année 2014 comme des femmes, comme des hommes de confiance de Jésus. Quelle que soit notre tâche dans l'Église, nous n'en avons peut-être même pas une directement. Mais là où nous sommes, Corrie ten Boom, dans sa prison, elle était seule. Mais elle a touché le cœur de cet officier. Elle ne l'a pas touché simplement parce qu'elle savait bien parler, mais parce qu'il ressentait au fond de cette femme qu'elle était inébranlable. Dans le rapport, il dit, elle confesse que quoi qu'il arrive, elle continuera à s'occuper des pauvres, à s'occuper des autres sans distinction de race. Et c'est un policier SS qui dit cela, qui reconnaît ça en elle. Que Dieu vous bénisse, afin que vos voisins, ceux qui vivent autour de vous, puissent reconnaître en vous les femmes et les hommes de confiance de Dieu. Amen.